Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Le dictionnaire des féministes.
Je me rendais compte de toutes les inégalités qui pesaient sur le dos des femmes, qui entravaient leur vie, notamment leur vie professionnelle. Le fait que la femme était subordonnée à son mari et qu'elle était obligée d'avoir l'autorisation de son mari pour travailler, c'était insupportable.
C'était Marguerite Thibert. Marguerite Thibert, dès les années 1920, impressionnait ses interlocuteurs par sa détermination. C'était la femme des superlatifs, couverte de diplômes, de pied en cap, fonctionnaire de haut niveau au Bureau international du travail, voyageuse infatigable. Elle témoigne de l'importance, dans la première vague du féminisme, d'un féminisme d'expertise qui luttait pied à pied pour les droits civils, en contrepoint du mouvement plus spectaculaire qui revendiquait les droits civiques. Consciente de la nécessité de laisser des traces, Marguerite Thibert a pris soin d'organiser ses archives. C'est une constante du féminisme, le souci de documenter. Modeste sténodactylo, Marie-Louise Bouglet rentrait chez elle tous les soirs avec de nouveaux documents qu'elle mettait en fiche, puis à la disposition du public, à son domicile. Marguerite Durand, qui dirigea La Fronde, journal entièrement dirigé, rédigé, composé par des femmes, laissa pareillement une immense bibliothèque spécialisée qui entendait prouver la valeur intellectuelle de l'activité des femmes. Ces deux fonds, Bouglet, Durand, ont été légués à la ville de Paris, qui les gère, tente de les amplifier, et plus récemment a été créé à Angers un ambitieux centre des archives du féminisme. Bref, le mouvement contemporain des femmes a de la mémoire. Il aurait pu ne puiser qu'à ses sources des années 60-70, qui sont d'abord radicales. Au contraire, ils cherchent, honnêtement, à faire leur part à tous les courants qui l'ont peu à peu nourri, les moins visibles, comme ceux qu'on croit connus. En témoigne ce grand dictionnaire des féministes, exemplaire qui paraît aujourd'hui.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Dirigé avec Sylvie Chaperon par Christine Barr. Bonjour Christine Barr.
Bonjour.
Qui a fondé aussi le Centre des Archives du Féminisme d'Angers. Alors, dans ce dictionnaire, il y a des entrées thématiques. Je ne sais pas, une entrée archive. Combien d'entrées thématiques?
137.
Bravo, vous avez vos notes. Et puis des entrées nominales qui consistent à présenter des biographies. Il y en a
421.
Marguerite Durand, que je viens de citer. Marguerite Thibert, signée.
Marguerite Thibert, par Françoise Thébault, qui va bientôt publier une biographie.
Et puis il y a aussi des personnes qui sont auteurs et qui font, comme Françoise Thébault, l'objet de biographies.
Alors, j'ai beaucoup d'auteurs, 196, gros travail collectif.
J'ai employé le mot « première vague ». Vous avez signé l'article « première vague ». Alors, la première vague, c'est la seconde. Enfin, le grand mouvement de mobilisation des années 60-70 qu'il a inventé.
Oui, c'est vrai qu'on commence à découper en grande période de l'histoire du féminisme et on fait débuter la première vague dans les années 1868. La première vague s'arrête grosso modo avec la Seconde Guerre mondiale. Elle décline dans les années 30, mais au fond, elle se prolonge un petit peu jusqu'à nos jours. Ensuite, on a un mouvement assez différent à partir des années 60-70.
On y viendra tout à l'heure, mais dans la première vague, il y a les couleurs les plus diverses. Il y a des libertaires, il y a
absolument,
des socialistes.
La diversité interne au féminisme.
Il y a des protestantes.
Énorme.
Il y a même tardivement des catholiques. Puis vous êtes honnête quand même parce que vous dites que le fondateur de la première vague, le fondateur, je dis bien, c'est un homme.
En réalité, c'est le cofondateur avec Maria de Rheims. Mais pendant quelques décennies et à son décès en 1911, on a considéré que Léon Richer était le véritable père fondateur du féminisme organisé. Et ça compte de préciser organisé, hein, puisqu'il est à l'origine de plusieurs associations et de la revue Le Droit des Femmes, donc d'un féminisme pérenne grâce à une solide organisation associative. Mais avant 1868, on a bien sûr d'autres expressions du féminisme.
Qu'est-ce qu'elles veulent? Je reprends le titre d'un film de Colin Serrault. Les droits civils, Léon Richer s'en préoccupait par priorité. Il y a une entrée cinéma, il y a une entrée Colin Serrault, et mentionner ce film formidable qui s'appelle « Qu'est-ce qu'elles veulent ?». Et voici, ça peut être le départ pour nous de notre réflexion, ce témoignage très fort d'une agricultrice.
Avant de se marier, je ne savais pas ce qu'il allait me faire après. Parce qu'au point de vue fortune, on n'était pas sortis non plus. Il avait juste une toute petite maison. Nous, on avait 3 propriétés. Il a dit sûrement m'épouser pour l'argent. Et puis, si j'avais été une femme débauchée, une coureuse, n'importe quoi, j'aurais accepté. Seulement, vu que je lui faisais rien, moi, j'ai jamais compris, vous comprenez. Ça fait de la peine, quand même. Quand ça ne mérite pas. C'est-à-dire, il aurait fallu lui demander le divorce, il me fallait encore d'argent. L'argent, je ne l'avais pas, il aurait fallu vendre les propriétés. Ma mère était là derrière, elle me disait, tu vas quand même pas saccager tout le bien qu'on a hérité de nos parents, tu vas pas vendre les terres, tu vas pas vendre les maisons. Voyez le milieu. Moi, je me suis accrochée, j'ai travaillé 14-15 heures par jour, j'ai dit, bon, mais il faut élever les gosses surtout, puis après on verra. Je peux rien acheter, je peux rien vendre sans qu'ils soient derrière, évidemment. Puis tout est pour les hommes, hein. Les femmes n'ont aucun droit. Ceux qui font les lois veulent pas s'en rendre compte, s'en foutent.
Les lois peuvent être anciennes et des dizaines d'années plus tard, ne pas avoir encore trouvé leur application dans l'esprit de tout le monde. Ces lois qui consacrent tardivement un certain nombre de droits civils aux femmes, le divorce, la libre disposition de son salaire, elles ont été portées par qui et par quelle méthode ?
Oui, en tout cas, là, on a un témoignage sur les femmes de la campagne et c'est sûr qu'elles sont, elles ne sont pas la priorité du mouvement féministe qui est plutôt un mouvement urbain. Dans les classes moyennes et supérieures, des femmes diplômées qui connaissent un petit peu de loin cette réalité, même si elles mentionnent quand même de temps en temps le sort de ces femmes qui connaissent mal leurs droits. Elle se préoccupe plus des salariés. Alors la libre disposition du salaire par les femmes mariées est gagnée en 1907. Le divorce, il est rétabli en 1884, mais uniquement pour faute. Il faut attendre 1975 pour avoir le divorce par consentement mutuel. Et ce ne sont pas là des enjeux spécifiquement féministes. Des féministes s'impliquent, mais... pendant la première vague, certaines féministes ne sont pas du tout rassurées par cette histoire de divorce qu'elles voient comme la possibilité de répudier des femmes.
Vous citez un certain nombre d'avocates, Yvonne Néther, Jeanne Chauvin. Ah, Jeanne Chauvin, elle soutient sa thèse en 1892, elle peut devenir avocate en 1900. C'est une féministe d'expertise qui ne va pas avoir une carrière mirobolante au barreau, mais qui se spécialise dans ces sujets-là.
Oui, absolument. Sur les droits civils, les premières avocates sont vraiment au premier plan de la lutte. Mais on pourrait parler aussi des femmes médecins. Les pionnières dans ces professions libérales ont souvent été en même temps des féministes qui savaient bien de quoi elles parlaient, qui mettaient en avant leur expertise, leur sérieux, leur connaissance, leur diplôme, pour légitimer leurs paroles. C'est d'ailleurs une des différences avec la deuxième vague, où on va mettre davantage en avant une autre sorte d'expertise, qui est l'expérience vécue des femmes, y compris des femmes les plus ordinaires.
Alors restons à la première vague. C'est pas une femme ordinaire, Marguerite Thibert, qu'on a entendue en exergue de l'émission. Notre réalisatrice l'a fait entrer dans son panthéon, l'entendant pour la première fois. 12e doctoresse lettres de l'université française, et puis après ?
Et après, l'université n'en veut pas. Elle soutient une thèse d'ailleurs sur l'histoire du féminisme, entre 1830 et 1850, sur le féminisme dans le socialisme français. Et ensuite, elle part au Bureau international du travail de Genève, et elle va devenir une experte mondialement reconnue sur le travail féminin.
Elle insiste toujours sur l'idée que le travail féminin en France est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Pas seulement chez les femmes d'agriculteurs, il y a une proportion très importante dès avant la Grande Guerre, et bien sûr encore davantage après la Grande Guerre.
C'est juste avant 1914, 34% de la main d'œuvre est une main d'œuvre féminine, et ça reste une caractéristique de la France aujourd'hui.
On l'écoute une nouvelle fois, une dernière fois.
Quelle est la bataille la plus difficile que vous avez eue à livrer pour les femmes, Madame Thibert ?
Eh bien, je crois que c'est pendant la récession des années 29-33. À ce moment-là, un certain nombre de gouvernements ou de mouvements sociaux s'étaient mis dans la tête qu'il fallait renvoyer la femme mariée du travail professionnel. Il y avait eu des législations en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, Et on risquait de voir les différents pays d'Europe se copier l'un l'autre pour sortir de la crise, soi-disant en interdisant à la femme mariée de travailler. Je craignais que l'Organisation internationale du travail n'arrive des demandes qui ne proposent cette solution stupide. Et nous avons pu l'éviter.
Dans la revue Minerva du 22 septembre 1935, on pouvait lire:
le retour au foyer dans la société moderne est une utopie pure, la négation de la concentration économique, une vaine tentative de retour à l'économie domestique, aussi impossible que le retour à l'utilisation de la diligence.
C'est une experte qui met toujours en avance son expérience de voyageuse et de fonctionnaire internationale.
Oui, elle a une perspective internationale tout le temps et elle suit de près ce qui se passe dans les dictatures dans les années 30, mais aussi dans certains pays dits démocratiques où le travail féminin se trouve très attaqué à cause de la crise économique. Elle va démontrer effectivement que c'est une absurdité. En France, le recul sera assez limité, même sous Pétain finalement. Les nécessités économiques l'emporteront. On ne peut pas se passer des femmes au travail.
Enfin, sous Pétain, on ne votera pas. Vous me direz que les femmes ne votaient pas non plus avant Pétain. Quand la priorité de la lutte pour les droits civiques, on parlait des droits civils, apparaît-elle ?
Comme une priorité du mouvement féministe, les années 1900, et notamment 1909, la création de l'Union française pour le suffrage des femmes, qui sera dirigée pendant de longues années par Cécile Brunschvicg. Avant, c'est un combat que mènent en solitaire les féministes les plus radicales, et notamment Hubertine Auclert, qui est la première à employer le mot féministe en 1882.
Oui, mais le combat pour les droits civiques, ça concerne aussi, c'est une entrée du dictionnaire des féministes, le féminisme modéré, où on va trouver des protestantes issues de la philanthropie, et puis même, prenant en retard le dernier wagon, des catholiques. Vous pouvez nous raconter votre visite, jeune doctorante, chez la duchesse Edmée de La Rochefoucauld. Il y a un article, une entrée, Edmée de La Rochefoucauld.
Elle est morte en 1991, elle était quasiment centenaire, et elle avait joué un grand rôle dans les années 30 en tant que présidente de l'Union nationale pour le vote des femmes, qui était une association féminine et féministe modérée, située à droite, clairement, et elle s'entourait de femmes de qualité, de femmes diplômées, de femmes qui travaillaient, donc il y avait un aspect vraiment moderne et authentiquement féministe, mais c'était vraiment pour elle une période lointaine et j'ai eu du mal à mener mon entretien avec cette vieille dame qui était surtout devenue une fervente gaulliste. Et qui voulait savoir pour qui j'allais voter, c'était sa question centrale.
On ne vous le demandera pas. C'était la fille de Madame de Fels.
Ma mère d'abord et moi ensuite, nous avons essayé d'obtenir d'être des citoyennes et former en même temps les femmes à ces nouveaux droits et devoirs par des conférences et congrès. Ce que j'ai essayé de créer, c'est une pléiade de femmes parmi les avocates et fonctionnaires qui pouvaient expliquer à d'autres femmes, sous la présidence d'ailleurs l'homme compétent, les sciences morales ou autres. Nous avons eu les Breuil, nous avons eu Paul Valéry comme président de séance, ce que les femmes seraient appelées à faire une fois qu'elles auraient ce fameux petit bulletin de vote.
Elle avait fait une conférence sur le sujet à l'Institut, à l'Académie des sciences morales et politiques. Moi, j'aime bien cette formule quand même dans l'article concernant la duchesse de La Rochefoucauld. Elle ne voulait pas tous les droits, elle laissait aux hommes certains droits. C'est-à-dire le droit de tuer, le droit de blesser et le droit de détruire.
Oui, c'est d'elle.
C'est d'elle.
Oui, ça a une tonalité assez radicale.
Justement, qu'est-ce qu'elle a entendu ? Vous me dites qu'elle était sourde à la fin, mais pas dans les années 70. Qu'est-ce qu'elle a entendu du MLF ? On va passer une chanson du MLF, si vous le voulez bien. Alors, il y a un article chanson. Les chansons sont d'écriture collective. Quand commence la deuxième vague ?
C'est compliqué de dater le début d'une vague ou la fin d'une vague.
Non, mais les chansons, elles sont collégiales.
Dès le début du MLF, en 1970.
Collégiales.
Oui, une écriture collective, oui.
Vous avez l'air d'en douter.
Bah non, oui, pas du tout.
On utilisait de vieux timbres, ici, c'est le chant des
marais.
Ah, bien
sûr, pour la musique, on récupère le capital symbolique de chants déjà connus, oui.
Les paroles
pas
sont faites.
Pas tout le temps, d'ailleurs, mais...
Les paroles, ici, sont faites toutes ensemble. Mm-hmm.
Reconnaissons-nous les femmes. parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Le dictionnaire des féministes aux presses universitaires de France sort ce jour sous la direction de Christine Barr. Nous en sommes maintenant à la deuxième vague. Deuxième vague, difficile de la dater, mais il est assez facile de la spécifier. C'est marxiste et américain.
Ça, c'est la caricature.
Ah bon?
Alors, le féminisme a toujours été victime de nombreux préjugés, hein, et notamment l'idée qu'il est importé en France. Il vient d'ailleurs alors, des suffragettes anglaises pour les années 1900 ou des États-Unis pour les années 60-70.
Enfin, les sources sont surtout anglophones à partir de la deuxième vague.
Non, il y a des transferts culturels entre les États-Unis et la France, dans les deux sens d'ailleurs.
Quand les féministes de la deuxième vague, les plus radicales, il y a aussi une entrée féminisme radical, disent que les rapports hommes-femmes sont comme des rapports de classe et que le sexuel est politisé, c'est un transfert du marxisme.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est tout à fait juste. Mais oui, il faut voir aussi le féminisme prend les couleurs du temps, hein, et le marxisme avait une grande importance dans la vie intellectuelle de ces années-là. Donc il y a quelque chose de logique, et c'est aussi ce qui fabrique le caractère radical de, entre autres, de ce féminisme autour du MLF, qui a d'ailleurs du mal avec le mot féminisme, puisque le féminisme renvoie à cette première vague où le féminisme était souvent vu comme un humanisme et une quête de droits, d'égalité des droits, alors que pour le mouvement MLF, beaucoup plus radical, il s'agit de transformer profondément la société, d'avoir une perspective révolutionnaire, d'abolir le patriarcat.
Mais nous, on va rester, si vous le voulez bien, sur le filon qui a été un peu recouvert par les actions spectaculaires du MLF et qui a couru pendant la deuxième vague, qui court bien sûr toujours aujourd'hui, le vieux monde est devant toi, et qui est florissant. Avant de tout vouloir embrasser, là, de diriger les archives du Centre du Féminisme, ou le Centre des Archives du Féminisme à Angers, vous vouliez faire une thèse, ça c'était raisonnable, sur le féminisme dans les syndicats.
Oui,
c'est vrai qu'on parle un peu des syndicats.
Oui. Oui, parce qu'on en parle peut-être trop peu de nos jours. C'est pas, on n'associe pas immédiatement le féminisme au syndicalisme, alors qu'il y a eu de nombreux points de rencontre. Même si on peut aussi avoir une lecture un petit peu triste des rendez-vous manqués. Mais il y a de grands moments de rencontre. Et on ignore souvent que les femmes ont conquis d'abord la citoyenneté sociale avant la citoyenneté politique, et qu'elles pouvaient voter au prud'homme dès 1907 et être éligibles dès 1908, que dès la loi qui autorise le syndicalisme en 1884, les femmes peuvent adhérer. C'est une loi qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes.
Cependant, elles sont minoritaires dans les syndicats, mais entourées de la sollicitude des syndicalistes hommes. Formidable film bien connu, La reprise du travail chez Vondère, de Jacques Villemont. Nous sommes à Saint-Ouen, dans l'usine Vondère, qui ne s'illustrait pas par ses conditions sociales, propriété de l'excellente famille Courtecuisse. Nous sommes en 68, un vote est intervenu qui prône la reprise du travail.
Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer.
Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver, l'imposer.
Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec.
tout gros.
Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies.
On le sait, on le dénoncera.
Vous ne pas qui vote
été maintenant. Ils étaient sabotés, le vote, oui. Ils ont fait ça à la saloperie, oui.
Le vote
noir. Un témoignage sur le palais, honoré par trentaine.
C'est une victoire, tu entends.
À une seule condition, c'est qu'il y ait une section syndicale forte qui veille.
Ils en ont une, ils s'en sont
et ils en ont une. Il y a plus de 200 syndicats maintenant. C'est là l'important.
Bah oui.
Mais c'est là l'important maintenant. Avant, il n'y avait rien chez Vonder. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent.
Moi, je ne rentrerai pas. Non, je ne rentrerai pas là-dedans.
Et dans les sections syndicales, combien de femmes? Et dans quel syndicat la plus forte pénétration dans ces années-là de la deuxième vague féministe?
Au moment de la deuxième vague, on a des femmes en nombre important à la CFDT comme à la CGT, avec une organisation féministe interne. Il y a des commissions féminines, mais mai 68 va transformer les choses. Des collectifs vont se former, des groupes femmes dans les entreprises. Donc le féminisme va être impacté, le syndicalisme va être impacté par ce nouveau féminisme. Ce nouveau féminisme qui apparaît et notamment interpeller les syndicats sur le hors champ, sur le hors travail, sur la double journée des femmes, sur les questions d'avortement et de contraception. Par exemple, on trouve les syndicats dans le MLAC.
Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Alors justement, ça c'est une question qui court tout au long de ce dictionnaire du féminisme. Le différentialisme et l'universalisme. Alors c'est expliqué de manière plus claire que par les mots que je viens d'utiliser. Est-ce que dans une entreprise, une ouvrière, mais c'est vrai aussi de la chef d'entreprise, peut avoir une vie qui ne compromette pas la vie de famille? Et vous avez, je sens ça dans vos articles, Christine Barle, l'idée qu'il faut maintenir l'universalisme.
La lutte féministe, peut-être la plus radicale, c'est celle qui met en avant le refus de toute législation différente selon le sexe, sauf pour ce qui concerne la maternité. En tout cas, historiquement, ça s'est posé comme ça. Mais les luttes féministes les plus majoritaires, celles qu'on trouve en général dans les syndicats, sauf à la CFDT dans les années 70, c'est plutôt une logique de protection des femmes, non sans argument, hein, bien sûr, tiré de l'expérience concrète des femmes.
Voici une femme qui performe. Parce qu'on citait les chefs d'entreprise, il est fait mention de beaucoup d'entre elles dans le dictionnaire des féministes. Et Valérie Astaraï a aimé Yvonne Foinant. On peut résumer sa carrière rapidement.
Alors, née en 1892, morte en 1990, maître des forges, elle ne féminise pas.
Non, elle est dans le genre serrage de vis, vous voyez.
Tout à fait, c'est sa spécialité. Et avant-guerre, donc, elle est la première femme dans un certain nombre d'instances du patronat, hein, de grands congrès et les différentes organisations patronales qui ont marqué l'histoire du patronat français.
Mieux valait raconter sa carrière parce qu'elle n'est pas du genre à le faire elle-même.
Si vous voulez bien, ne parlons pas de moi. Je ne suis jamais que la 10 millionième femme du monde qui a pris ses responsabilités, soit femme chef de famille, soit femme chef d'entreprise, soit femme chef, il en est des tas. Alors parlons plutôt, si vous voulez bien, de cet ensemble de femmes responsables. Le seul mérite que je me reconnais, c'est peut-être, ayant été veuve très jeune, de m'être aperçue et d'avoir enregistré cette sorte de gang épouvantable pour la femme, un véritable sarcophage qu'est la solitude. La solitude aussi bien pour la femme employée, la femme salariée, que pour la femme chef d'entreprise, que pour toutes les femmes. La solitude féminine est quelque chose de dramatique qu'il faut être femme pour réaliser. Et voyez-vous que nous avions bien perçu tout de même, puisque vous avez là, dans ces tout derniers jours qui viennent de m'arriver, une lettre d'une boulangère qui m'écrit « La solitude est dure, je voudrais voir s'il est possible d'être reçue aux femmes chefs d'entreprise. » Voici une industrielle de province, 85 ouvriers, voyez-vous, c'est déjà une autre taille d'affaires, qui m'écrit également « J'ai trois fils, je suis seule, c'est dur de lutter. »
Mais en dehors de la solitude, est-ce que la femme, chef d'entreprise, comme les autres femmes d'ailleurs, ne souffre pas d'une ségrégation dans leur travail ?
Aussitôt unie, car toujours le même principe, l'union fait la force, aussitôt que nous sommes réunis ensemble, nous avons constaté que la ségrégation sexuelle, dans le monde économique comme dans le monde politique, était appliquée avec une rigueur au moins égale à la ségrégation raciale des États-Unis.
Yvonne Foinan, en 66, à la télé avec Huguette Fay. Alors voilà une femme dont l'entrée dans le dictionnaire des féministes dit qu'elle est très réservée sur les questions de sexualité, d'avortement, mais alors elle peut, bien que féministe modérée peut-être, avoir un langage radical, ségrégation sexuelle égale ségrégation raciale aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Bon, l'image est traditionnelle quand même, hein, mais elle connote quelque chose de radical. C'est intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément tout de suite au féminisme patronal ou au féminisme entrepreneurial, au fait qu'il y a eu des associations de femmes chefs d'entreprise dès le début du XXe siècle. Qui avait un argumentaire sur la mixité, hein, la nécessaire mixité comme atout économique et managérial, et puis l'envie de prouver l'égalité des compétences féminines et masculines dans le domaine de l'économie.
Les femmes seraient à l'origine de 40% des créations d'entreprises et représenteraient 30% des dirigeants d'entreprises, peut-être pas parmi les plus grandes. Je peux finir avec une question pour vous titiller. C'est pas facile quand on fait un dictionnaire des féministes si ample. C'est aux presses universitaires de France, je ne sais pas ce que vous ont dit les typographes, les correcteurs, correctrices des presses universitaires de France. Comment on fait ? On écrit auteur, A-U-T-E-R, point E-S, militant, point E-S, ou on accepte que le genre masculin soit dominant ?
Au Moyen-Âge, on ne se posait pas la question. On mettait la forme double féminine et masculine sans trouver que c'était une lourdeur d'expression. Donc, le minimum pour nous, c'est de dire auteur.e.s. On a des auteurs qui se considèrent plutôt comme des autrices et qui aiment cette forme-là qui revient beaucoup parce que les recherches historiques ont justement montré qu'autrice était une forme féminine du passé qui avait bel et bien existé. Donc, pourquoi aller inventer une auteure ? On pourrait simplement en prendre dans le patrimoine linguistique.
Mais on n'a pas assez parlé des libertaires. Vous dites anarcho-féminisme ou anarcha-féminisme ?
Plutôt anarcha.
Plutôt anarcha. Bon, tout à l'heure quand même, avant qu'on ne soit en lice, vous me parliez du MFLO-centrisme.
Oui, vous m'avez reprise.
Oui, je vous ai reprise parce que j'ai appris beaucoup de leçons de vous, Christine Barr, votre dictionnaire des féministes, avec Madame Chaperon. Et puis je signale, on retrouvera les références sur notre site, le mois du genre antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui que vous animez au début du mois de mars à Angers. L'émission a été réalisée par Valérie Aestaraï, préparée par Claire Milan, avec à la technique Hélène Langlois.